Ben, comme on a l'habitude de le faire, c'est pas pour remplir le temps, mais on va prier. Hein, on va se confier encore à la Vierge Marie, si vous voulez bien, pour que je puisse vous dire un peu l'essentiel de ce que j'ai pu comprendre de l'œuvre que je vais vous présenter un peu là. Vous voyez, les trois volumes, c'est ça le cœur admirable. Il y a 12 livres en fait, à partir du tome 6, ensuite 7 et 8, des œuvres complètes de Jean Eudes, éditées à Vannes en 1908. C'est impressionnant, c'est pour vous impressionner que j'ai mis ça. Et peut-être pour vous inciter à lire. Ce sont les sœurs de la Visitation qui ont bien voulu me prêter ces exemplaires. Et alors j'ai essayé de regarder un peu certaines choses, parce que moi, vous avez compris que je dois remplacer ici le général des eudistes, en fait. Hein. Je ne peux pas le remplacer, voyez-vous. Alors, donc voilà, on va se confier encore à la Vierge Marie, que Saint Jean-Eudes aimait tellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes est né en 1601 et il est mort en 1680. Donc, contemporain de Marguerite Marie et Saint-Claude. Mais aussi, c'est l'époque de Saint-Vincent de Paul. Je ne peux pas dire Saint-François de Sales parce qu'il n'a pas beaucoup connu en direct. Mais enfin, il a beaucoup bénéficié de ses œuvres. Alors, dans l'introduction, comme on rappelle de ce qui a été dit ce matin, Saint-Jean-Eudes présente la vie chrétienne comme un itinéraire vers une union de plus en plus personnelle et profonde avec Jésus-Christ. Et dans son livre « La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes », il voulait justement proposer aux chrétiens de se rappeler de leur baptême, depuis lequel nous avons reçu en nous cet appel à suivre Jésus, à l'imiter, à laisser les mystères de sa vie et ses œuvres devenir nôtres. Pour le dire autrement, il s'agit de laisser Jésus se former en nous. Et je vais le citer, Saint Jean-Eudes. Il disait qu'en fait, le dessein du Père, c'est voir son Fils vivant et régnant en nous. Et je le cite. Le mystère des mystères est l'œuvre des œuvres. C'est la formation de Jésus qui nous est marquée en ces paroles de Saint Paul, en Galates 4, 19, « Mes petits-enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » C'est le plus grand mystère et la plus grande œuvre qui se fasse au ciel et sur la terre par les personnes les plus excellentes de la terre et du ciel, c'est-à-dire par le Père éternel, par le Fils, et par le Saint-Esprit, par la très sainte Vierge et par la Sainte Église. Il les appelle personnes les plus excellentes. Il est presque sur le même plan. Il a une vision théologique très moderne, je trouve, ce Jean-Eudes. Il personnifie l'Église, voilà, déjà. Cette œuvre, donc le royaume de Jésus, a été écrite en 1637, donc ça date, hein, mais c'est une extrême actualité pour nous. Donc voilà l'idée centrale. Voilà, c'est à la fois un résumé de ce que je dis ce matin et en même temps une introduction pour cet après-midi. Et je finissais tout à l'heure l'enseignement concernant la spiritualité centrale justement de Saint Jean-Eudes avec sa synthèse dans les cinq points à travers lesquels nous pouvons justement conformer au Seigneur, nous unir à lui. Il disait juste après une petite prière. « Je reviens à vous, ô Mère admirable, » donc il priait la Vierge Marie, « pour dire que c'est en vous que ces choses merveilleuses sont accomplies très parfaitement et en une manière très éminente et qui n'a rien de commun avec personne. C'est-à-dire que si tout chrétien est appelé justement à cette union profonde avec Jésus, ben, la première qu'il a réalisée, c'est Marie. Je continue la citation. « C'est de vous que l'on peut dire véritablement que votre fils Jésus est tout à vous et que vous êtes tout à lui. » Donc voilà, il fait une synthèse maintenant, mais en appliquant tout cela à Marie. « Qu'il est tout en vous et que vous êtes tout en lui, que vous n'êtes qu'un avec lui, mais tout cela d'une façon très excellente. » C'est un langage du XVIIe siècle quand même. Hein. « Et par conséquent, que son esprit est votre esprit, que son cœur soit corporel, soit spirituel, soit divin, soit votre cœur, et que lui-même est l'esprit de votre esprit, l'âme de votre âme, la vie de votre vie et le cœur de votre cœur, dont il soit béni, loué et glorifié éternellement par toutes les créatures de l'univers, par toutes les grâces qu'il vous a faites et par toutes les puissances de son humanité et de sa divinité. » C'est beau, je trouve. Cette proximité, cette alliance sûrement très profonde, mystique, on peut dire, entre lui et la Vierge Marie, et ça apparaît en ces lignes qui sont un peu le résumé, dans un ouvrage hein, qu'il a écrit cette fois-ci à la fin de sa vie, et duquel il dira dans son mémorial, hein, donc les dernières lignes qu'il nous a laissées. C'est tout un chemin pour lui, en fait. Hein. Il a commencé à se tourner vers la Vierge Marie avant de, je dirais, préciser, composer sa théologie sur le Sacré-Cœur de Jésus. Parce qu'il disait, c'est à travers le cœur de Marie que nous pouvons mieux comprendre le cœur de Jésus. Parce qu'elle est tellement unie, et ses cœurs sont tellement unis, nous allons le voir tout à l'heure, qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et alors donc, dans ce mémorial, dans son journal vers la fin de sa vie, il dit ceci, aujourd'hui, 25 de juillet de la même année, donc de l'année 1680, Dieu m'a fait la grâce d'achever mon livre du cœur admirable de la très sacrée mère de Dieu. Voilà, les trois volumes qui sont là. Bon, c'est un peu moins ce qu'il a écrit parce qu'il y a des introductions, des notes hein, que les éditeurs eudistes ont réalisées hein, pour présenter cet écrit. Alors, ces lignes, en fait, de Jean E. dans son mémorial sont les dernières, comme je disais tout à l'heure. Cela achève ce petit journal, en fait, qu'il nous a laissé, comme une sorte de petite biographie personnelle. Alors, Jean E. est maintenant un vieil homme, donc il a presque 80 ans. À l'époque, c'était beaucoup. Hein. Il a encore quelques 4 semaines à vivre. Face à la mort qui vient, il a eu justement cette force de, on peut dire, boucler hein, cet énorme livre qui, en fait, il paraîtra un an après sa mort. Certains disent que c'est un ouvrage presque illisible, mais débordant d'amour et de lyrisme, qui s'intitule donc « Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu ». C'est un chant, en fait, un testament aussi, un monument émouvant jusque dans ses longueurs et ses lourdeurs. C'est une sorte de « nunc dimittis ». Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Un au revoir, quoi, hein, d'un être éperdu de reconnaissance envers Jésus et Marie. Je vais vous proposer 3 parties dans mon enseignement. Premièrement, ce qu'on doit entendre par le mot « le cœur de la très sacrée Vierge ». Que Jean Eudes utilise. Donc, je vais le laisser l'expliquer par lui-même, en fait. Dans la deuxième partie, je vais vous proposer d'entendre ce qu'il nous dit de l'union parfaite entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et enfin, en quoi consiste le culte du cœur de Marie et de Jésus ? Parce que les deux ne font qu'un seul. Alors, dans le chapitre deuxième, du cœur admirable, Saint Jean Eudes dit ceci, ce nom de cœur, pour commencer, vous voyez, il est très pédagogue, hein, il explique ce que ça veut dire, ce mot de cœur a plusieurs significations dans l'écriture sainte. Donc il prend le temps d'expliquer, après ses recherches, ses méditations très belle hein, sur l'Écriture. Il en trouve 8 sens hein, de ce mot « cœur ». Je ne vais pas les lire, j'ai renoncé à ce passage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il fallait résumer un peu. Et il dit que tous ces cœurs, enfin tous ces sens différents de mot « cœur » peuvent s'appliquer à la mère d'amour. Et tous ces cœurs n'y font qu'un seul cœur en fait, en elle. Évidemment, il n'a pas 8 cœurs, quoi, hein. Ni 5, ni 3, mais un seul. Tant parce que toutes les facultés de la partie supérieure et intérieure de son âme ont toujours été très parfaitement unies ensemble, que d'autant que Jésus, qui est le cœur de son Père, le Fils qui est le cœur du Père, hein, et le divin Esprit qui est le cœur du Père et du Fils, lui ont été donnés pour être l'esprit de son esprit, l'âme de son âme et le cœur de son cœur. Il répète souvent ces expressions. Donc, prenons notre mal en patience, comme on dit, et même si ça revient souvent, il y a toujours des nuances et il y a comme un progrès comme ça, un chemin sur lequel il veut nous conduire pour comprendre en fait ce mystère magnifique du cœur de Marie. Alors, il continue en disant aussi que de la même manière qu'en Jésus, on l'a entendu tout à l'heure, on peut parler de trois cœurs, hein, corporel, spirituel et divin. Il dit aussi de la même manière, en Marie aussi, il y a un cœur spirituel, un cœur corporel, un cœur spirituel et un cœur divin. Le premier cœur de la Mère de Dieu, dit-il, c'est le cœur corporel qui est enfermé dans sa poitrine virginale. Mais, il rajoute un peu plus loin, tout à fait spiritualisé par l'Esprit de grâce et par l'Esprit de Dieu dont il est tout rempli. Le second, c'est son cœur spirituel, le cœur de son âme, qui est désigné par ces paroles du Saint-Esprit, dans le psaume 44, verset 14, « Toute la gloire de la fille du roi prend son origine dans son intérieur. » Son intérieur. C'est-à-dire dans le cœur et dans le plus intime de son âme. Mais ce cœur spirituel, dit-il, est divinisé. Non pas par l'union hypostatique comme le cœur spirituel de Jésus. Union hypostatique, vous voyez ce que ça veut dire. C'est l'union entre la nature humaine de Jésus et la nature divine. Parce qu'en Jésus, ben, il faut croire les deux. Et il n'y a pas deux personnes, hein, il n'y a pas non plus une seule nature. Voilà, il est homme-dieu. Et Jean-Eudes le nomme souvent comme ça, l'homme-dieu. Bon, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reprendre ce sujet après. Mais c'est un mot qui veut dire substantiel, hypostatique, veut dire substantiel. C'est une union tellement parfaite, voilà, qu'il y a une seule personne, en fait, hein, dans le Fils de Dieu fait homme. Et donc, du coup, ces deux natures sont unies d'une manière substantielle. Tandis que pour la Vierge Marie, ce n'est pas pareil. Elle n'est pas unie de manière substantielle, voilà, à la nature divine. Mais il est divinisé, ce cœur de Marie, par une, dit-il, une très éminente participation des divines perfections. Et ici, bon, on verra tout à l'heure, il fait appel, enfin, il nous rappelle un peu ce que Saint-Pierre dit, qu'en fait, nous tous sommes appelés à être participants à la nature divine. Mais pas de la même manière que le Fils unique, qui est par nature Dieu, mais par adoption. Voilà, bon, ça tient un peu à notre catéchisme. Donc, si vous avez des lacunes là-dessus, ben, ouvrez le catéchisme de temps en temps, hein, puis vous lisez un peu ça. Ça peut nous aider. Voyez. Alors, le troisième cœur de cette divine Vierge, c'est celui dont elle parle quand elle dit « Je dors et mon cœur veille ». Citation de Cantique 5, 2. C'est-à-dire, selon l'explication de plusieurs saints docteurs, c'est-à-dire des pères de l'Église et d'autres théologiens, dans le Moyen-Âge, pendant que je donne à mon corps le repos qui lui est nécessaire, mon Fils Jésus, qui est mon cœur et que j'aime comme mon cœur, est toujours veillant sur moi et pour moi. Il précise un peu plus loin, ce troisième cœur est divin et Dieu même, puisque c'est le Fils de Dieu. Le cœur divin, en fait, de Marie n'est pas divin dans le sens qu'elle a une nature divine, quoi. Mais c'est parce que dans son intérieur là est vraiment présent le Fils de Dieu lui-même, qui est Dieu réellement. Et il conclut en disant ces trois cœurs de la Mère de Dieu ne sont qu'un seul cœur, par la plus sainte et la plus étroite union qui fut et qui sera jamais après l'union hypostatique. C'est de ces trois cœurs, ou plutôt de cet unique cœur, que le Saint-Esprit a prononcé par deux fois ces divines paroles. Marie conservait toutes ces choses dans... Qui dit ça? Les deux fois, c'est où? Un petit test. Évangile de Luc, bien, chapitre. Oh, oh. C'est le chapitre 2. Bon, je vais vous donner le verset aussi au cas où vous voulez le vérifier, ça. Mais lisez tout le chapitre quand même. Le verset 19 et 51. Et alors, il explique qu'est-ce que ça veut dire, voilà, ce cœur dans lequel Marie conservait toutes choses. Ou comme disent d'autres traductions, méditait cela dans son cœur. Premièrement, elle conservait tous les mystères et toutes les merveilles de la vie de son fils en quelque manière dans son cœur sensible et corporel. Principe de la vie et siège de l'amour et de toutes les autres passions. Parce que tous les mouvements et battements de ce cœur virginal, toutes les fonctions de la vie sensible qui en procédaient et tous les usages des susdites passions étaient employés pour Jésus et pour toutes les choses qui se passaient en lui. L'amour pour l'aimer, la haine pour haïr tout ce qui lui était contraire, c'est-à-dire le péché, la joie pour se réjouir de sa gloire, de ses grandeurs, la tristesse pour s'affliger de ses travaux et souffrances, et de même des autres passions. Passion, on comprend bien ici, c'est pas du tout le côté péjoratif. Secondement, elle les conservait dans son cœur, c'est-à-dire dans la partie la plus noble de son âme, dans le plus intime de son esprit. Car toutes les facultés de la partie supérieure de son âme étaient sans cesse appliquées à contempler et à adorer tout ce qui se passait en la vie de son fils, jusqu'aux moindres choses. En troisième lieu, elle les conservait dans son cœur, c'est-à-dire dans son fils Jésus, qui était l'esprit de son esprit et le cœur de son cœur, lequel les conservait pour elle, et les lui suggérait et remettait en mémoire lorsqu'il était convenable, tant afin qu'elle servisse de nourriture son âme par la contemplation, et qu'il y rendît les honneurs et les adorations qui leur étaient dues, comme aussi afin qu'elle les racontât aux saints apôtres et disciples, pour les prêcher aux fidèles. Certains ont dit à un moment donné que ce cœur de Marie, c'est la mémoire vivante de toute l'Église, en fait, de tout l'Évangile, de tout le plan du salut. Il conclut, voilà ce qu'on entend par le cœur admirable de la bien-aimée de Dieu, qui est une image accomplie du cœur adorable de Dieu et de l'homme-Dieu. Et maintenant, il va prendre maintenant chacun de ces trois cœurs pour expliquer un peu plus comment ça se fait que chacun de ces cœurs, il est complètement uni à Dieu, en fait. Comment il est une image accomplie de ce cœur de Dieu. Le cœur corporel, ça va nous aider, je pense, ce passage, les autres sûrement, pour nous préparer d'une manière excellente, pour utiliser ce mot de Jean-Eudes, pour la fête de l'Immaculée Conception, qu'on aura dans quelques jours. Donc, concernant le cœur sensible et corporel de la Bienheureuse Vierge, Jean-Eudes nous dit ceci, je cite, « Comme il n'y a rien en Jésus qui ne soit grand et admirable, aussi il n'y a rien dans la Mère de Jésus qui ne soit plein de grandeur et de merveille, car tout ce qui est en Marie est ennobli et sanctifié jusqu'à un point inconcevable par sa divine maternité. Il n'y a rien du tout au corps virginal de la Mère de Dieu qui ne mérite les louanges immortelles de toutes les créatures. » Fin de citation. Alors, il va utiliser un mot qu'il répète souvent, des excellences merveilleuses, c'est-à-dire des qualités excellentes. Parmi les principales dont le corps de la Vierge Marie est doué, je vous propose donc, non, moi, de ce qui nous touche particulièrement concernant l'Immaculée Conception. Je cite Jean-Eudes. Le corps de Marie a été formé dans les bénites entrailles de Sainte Anne, non pas par la vertu ordinaire de la nature, mais par la puissance extraordinaire de Dieu. puisque la conception immaculée de la très sainte Vierge ne s'est faite, quant à la nature et quant à la grâce, que par un grand miracle. C'est pourquoi on peut dire que son corps a été formé de la main du Saint-Esprit et que c'est l'ouvrage du Très-Haut. De là vient qu'après le corps déifié de Jésus-Christ notre Seigneur, il n'y a jamais eu et n'y aura jamais en la terre aucun corps qui soit si accompli en toutes sortes de qualités avantageuses comme le corps sacré de sa très pure mère. Car Dieu, l'ayant formé de sa propre main et pour les plus hauts desseins de son conseil éternel, qui peut douter qu'il ne l'ait orné de qualités convenables à la fin très sublime laquelle il était destiné et aux fonctions très divines auxquelles il devait être employé. Et ensuite, Jean Huss cite beaucoup de pères de l'Église. J'en prends seulement une citation de saint Augustin. « Vous êtes toute belle, Vierge des Vierges, vous êtes toute agréable, toute immaculée, toute lumineuse, toute glorieuse, ornée de toute perfection enrichie, de toute sainteté. Vous êtes plus sainte et plus pure, même en votre corps, que toutes les vertus angéliques. » Saint Augustin. Bon, vous voulez notre père d'Église ? C'est beau, hein ? Dans l'Orient, on entend la toute pure, vous voyez. Et vous voyez, ces mots, entre parenthèses, ont précédé de beaucoup, ils ont été exprimés comme ça, bien avant que le dogme même de l'Immaculée Conception soit proclamé. Vous voyez, l'Église n'a pas attendu une déclaration publique pour qu'elle ait cette foi, vous voyez, dans l'Immaculée Conception. Saint Georges, archevêque de Nicomédie, dit ceci, « Ô souveraine beauté de toutes les beautés, ô Mère de Dieu, vous êtes l'ornement et la couronne de tout ce qu'il y a de beau et d'éclatant en l'univers. » Saint Jean-Eude continue, « La seconde excellence du corps virginal est qu'il a été formé expressément pour notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il n'a été formé que pour lui seul. » Je vais essayer d'avancer un peu sans m'attarder sur chacune de ces excellences. Il en trouve cinq, mais il les déploie longuement, hein, concernant voilà, le corps même, le cœur corporel aussi de la Vierge Marie. La troisième excellence du sacré corps de la Mère admirable est qu'il est animé de la plus sainte âme qui fut jamais, après l'âme adorable de Jésus. À raison de quoi on peut dire que les organes de ce saint corps ont servi aux plus saintes et excellentes fonctions qui puissent être après celles de l'âme déifiée du Fils de Dieu. Il prend le temps pour l'expliquer, voilà, pourquoi le corps même de Marie mérite voilà, une véritable vénération. La quatrième excellence consiste à ce qu'elle a accompli très parfaitement le commandement que Dieu nous donne par son apôtre en ses paroles, « Glorifiez et portez Dieu en votre corps. » 1 Corinthiens 6, 20. Elle a commencé à l'accomplir longtemps auparavant que ces paroles eussent été prononcées. C'est-à-dire que saint Paul va le dire bien après ce que la Vierge Marie avait déjà vécu dans son propre corps. Elle a glorifié déjà le Seigneur bien avant voilà, ces lettres de saint Paul. Le Saint-Esprit voulant faire connaître à tous les chrétiens que la volonté de Dieu est qu'ils soient saints, non pas seulement en leurs âmes, mais aussi en leur corps, dans lequel ils le doivent porter et glorifier, leur annonce par la bouche de saint Paul, justement ce dessein qu'il a. Alors là, il prend le temps pour donner beaucoup de citations de saint Paul, qui nous dit cela, hein, « Vous êtes le temple de l'Esprit, votre corps est la demeure de Dieu, etc. » Et la première qui a vécu d'une manière excellente, c'est cette habitation hein, dans son corps de la présence de Dieu, c'était la Vierge Marie. La cinquième excellence, selon l'expression de saint Jude, va peut-être nous aider à mieux comprendre un peu l'Angélus, hein, qu'on a l'habitude de prier tous les jours, hein, et surtout durant ce temps de l'Avent. Il dit qu'il s'agit des paroles divines, hein, que la Sainte Église révère tellement qu'elle ne les prononce jamais sans mettre le genou en terre. Nous le faisons surtout à Noël, hein, quand on dit « le Verbe s'est fait chair ». Le Verbe s'est fait chair. Parole qui comble le ciel de joie, la terre de consolation et l'enfer de terreur. paroles qui sont le fondement de notre religion et la source de notre salut éternel. Le verbe s'est fait chair. C'est, comme dira plus tard le catéchisme de l'Église catholique, c'est la spécificité de notre foi chrétienne. Donc si vous posez la question, quelle est la différence entre les religions, finalement, est-ce que tous ne se valent pas, toutes les religions ne sont pas pareilles? Ben non, parce que nous avons reçu cette grâce de savoir qu'un jour, le Fils de Dieu s'est fait chair. Il est venu jusqu'à nous. Et pourquoi? Ben pour nous sauver. Il dit là, c'est le fondement, donc la spécificité de notre foi chrétienne. Quelle est cette chair? Le verbe s'est fait chair. Quelle est cette chair de laquelle il est fait mention ici avec tant de respect? C'est la très pure chair de la Vierge Marie que le Verbe éternel a tellement honorée qu'il s'est uni personnellement à elle. Et elle a rendu sa propre chair. En sorte que l'on peut dire avec saint Augustin que la chair de Marie est la chair de Jésus. Et que la chair de Jésus est la chair de Marie. Ô dignité incompréhensible de la chair de Marie, excellence admirable de son corps virginal, ô quelle vénération est due à un corps qui est doué de tant et de si rares perfections, ô quel honneur mérite un corps que Dieu a tant honoré. Alors, à cause de toutes ces prérogatives, Jean-Eudes ne va pas hésiter à dire que le corps, et donc le cœur corporel de la Vierge Marie, serait déjà digne de toutes sortes d'honneurs et de vénérations. Je vais passer au deuxième. Cœur spirituel. Il l'appelle la partie raisonnable de l'âme humaine. C'est-à-dire le cœur de l'âme, qui est la partie la plus excellente, le principe de la vie intellectuelle et morale, qui est la vie propre de l'âme humaine, comme le cœur est le principe de la vie du corps. À l'époque, on pensait que le sang était formé dans le cœur. Et donc Jean-Eudes avait aussi cette pensée, comme à l'époque, qui était un peu erronée. Et du coup, au niveau de ces explications, voilà, il est un peu, je dirais, prisonnier, si on peut dire ça, de cette pensée de l'époque. Enfin, à raison de la volonté qu'elle renferme, le principe de l'amour et des affections spirituelles de l'homme, voilà, c'est tout cela le cœur spirituel. Elle est donc bien le cœur de l'âme et partant le cœur spirituel de l'homme. Le cœur spirituel de Marie, c'est donc, dans un sens large, la partie supérieure de son âme, avec toutes les perfections naturelles et surnaturelles qu'elle renferme, savoir ses facultés naturelles, la mémoire, l'intelligence, la volonté, la plénitude de grâce et de vertu dont elle a été comblée et la vie admirable dont elle est le principe. Et c'est là que Père Eudes traite de la pureté du cœur de Marie, de sa sainteté, de sa science, de sa sagesse et en général de toutes ses vertus et de toutes ses perfections intellectuelles et morales. Mais il précise que ce qui constitue proprement le cœur spirituel de Marie, c'est sa volonté et son amour. Je le cite. Surtout, sous le nom du cœur de Marie, nous entendons et désirons révérer et honorer, premièrement et principalement, cette faculté et capacité d'aimer, tant naturelle que surnaturelle, qui est en cette mère d'amour et qu'elle a toute employée à aimer Dieu et le prochain. C'est pourquoi l'amour divin possédait, remplissait et pénétrait tellement le cœur et l'âme et toutes les puissances de cette Vierge Mère qu'il était véritablement l'âme de son âme, la vie de sa vie, l'esprit de son esprit et le cœur de son cœur. De sorte que l'amour était tout et faisait tout en elle et par elle. Fin de citation. Je ne vais pas commenter trop parce que je pense que c'est assez clair ce qu'il est en train de nous dire. Concernant maintenant le cœur divin, troisièmement. Alors, pour montrer l'unité intérieure du cœur de Marie, saint Jean-Eudes disait que l'amour divin dirigeait l'activité des passions et en inspirait tous les actes. Le cœur corporel de Marie, qu'il est tout spiritualisé et tout embrasé de la divine charité, comme son cœur spirituel est tout divinisé par l'action de l'Esprit-Saint. Alors, c'est là également ce qui lui a permis de dire que le cœur spirituel de la Sainte Vierge est l'âme et l'esprit de son cœur corporel. Ces deux cœurs, corporels et spirituels, en fait, sont si étroitement unis qu'ils participent l'un et l'autre, quoique d'une manière différente, à toute la vie intime de Marie. Mais il rajoute, il précise aussi que la beauté spirituelle et intérieure de Marie tire son origine de son divin cœur, puisque ce cœur virginal est le siège de l'amour dont elle est remplie. Amour qui est à la racine, qui est la racine et le principe de toutes les vertus, de toutes les saintetés et de toutes les perfections et beautés dont son âme est ornée. Il insiste cependant d'une manière toute spéciale sur les relations du cœur de Marie avec le Verbe incarné et avec le Saint-Esprit. Et donc du coup, il explique en fait que tout ce qu'elle contient dans son cœur, pour qu'il soit divinisé, est dû à l'action de la Trinité en elle en fait, qui habite déjà dans son cœur. Et donc, concernant justement la relation du cœur de Marie avec le Fils et avec le Saint-Esprit, il va jusqu'à leur donner l'un et l'autre le nom de cœur divin de Marie. Et il veut que les hommages que nous rendons au cœur de la Bienheureuse Vierge remontent jusqu'à eux, c'est-à-dire jusqu'au Fils, jusqu'à l'Esprit. Et déjà, dans son écrit « Le Royaume de Jésus », il disait ceci, « Ô Jésus, je vous contemple et adore comme vivant et régnant en votre très sainte mère, et comme celui qui est tout et qui fait tout en elle, car vous êtes sa vie, son âme, son cœur. » Alors, pour bien nous expliquer pourquoi le cœur de Marie est un cœur divin, c'est une expérience qui peut nous choquer peut-être, mais hein, il explique. Il nous dit qu'il faut tenir compte des trois dimensions du cœur de Jésus, comme c'est aussi le cas pour le cœur de sa mère Marie, corporelle, spirituelle et divine. En plus, dit-il, il faut savoir que le Fils de Dieu est le cœur de son Père éternel, selon l'enseignement de Saint Clément Alexandrin. Ainsi, premièrement, le cœur corporel de Jésus est le cœur de Marie. Car la chair de Jésus étant la chair de Marie, comme on l'a entendu tout à l'heure selon saint Augustin, il s'ensuit nécessairement que le cœur corporel de Jésus est le cœur de Marie. En second lieu, le cœur spirituel de Jésus est aussi le cœur de Marie, par une très intime union d'esprit et de volonté. Donc là, il est en train d'insister sur cette union entre le cœur de Marie et le cœur de Jésus, ces différentes dimensions. Et là, il y a ici quelque chose qui est très beau. S'il est dit des premiers chrétiens, précise saint Jean-Eudes, qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, Actes des Apôtres 4, 32, un verset que vous pouvez noter. Hein. Les chrétiens n'avaient qu'une âme et qu'un cœur. Combien davantage cela est-il véritable, vrai, hein, du Fils unique de Marie et de sa très chère mère? Si saint Bernard dit hardiment que Jésus étant son chef, le cœur de Jésus est son cœur et qu'il n'a qu'un même cœur avec Jésus, combien à plus forte raison la mère du Sauveur peut-elle dire « Le cœur de mon chef et de mon fils est mon cœur et je n'ai qu'un même cœur avec lui. » Et en troisième lieu, concernant le cœur divin de Jésus, qui est le Saint-Esprit, et bien sûr aussi le cœur de Marie. Car si ce divin esprit a été donné de Dieu à tous les vrais chrétiens, pour être leur esprit et leur cœur, suivant la promesse d'Ézéchiel, hein, 36, 26, « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. » Dieu qui veut mettre dans le cœur humain son propre esprit, ben, il dit ben, « Combien davantage la reine et la mère des chrétiens ?» Alors, pour résumer tout cela, je vais finir par aussi une autre citation qui fait comme une synthèse de tout cela. Qui pourrait penser de quelle façon et avec quelle abondance et perfection Jésus communique sa vie divine à celle de laquelle il a reçu une vie humainement divine et divinement humaine, puisqu'elle a engendré et enfanté un homme Dieu. Il est vivant en son âme et en son corps, et en toutes les facultés de son âme et de son corps. Il est tout vivant en elle, c'est-à-dire que tout ce qui est en Jésus est vivant en Marie. C'est-à-dire que Jésus est complètement formé en elle, vous voyez, selon voilà, cet appel, cette vocation de chaque chrétien. Mais en elle, cela s'accomplit d'une manière parfaite. Et il répète sans cesse pour bien nous faire comprendre cela. Son cœur est vivant dans son cœur, son âme dans son âme, son esprit dans son esprit, la mémoire, l'entendement, la volonté de Jésus sont vivantes dans la mémoire, dans l'entendement, dans la volonté de Marie. Ses sens intérieurs et extérieurs, dans ses sens intérieurs et extérieurs, ses passions dans ses passions, ses vertus, ses mystères, ses divins attributs sont vivants dans son cœur. Que dis-je vivant ? Toutes ces choses y ont toujours et sont et seront vivantes et régnantes souverainement, y opérant des effets merveilleux et inconcevables et y imprimant une image vivante d'elle-même. C'est ainsi que Jésus est principe de vie en sa très sainte mère, principe de vie. C'est ainsi qu'il est le cœur de son cœur et la vie de sa vie. C'est ainsi que nous pouvons dire véritablement qu'elle a un cœur tout divin. C'est pour nous apaiser, vous voyez, qu'il dit cela, pour ne pas nous dire, bah, tiens, la Vierge Marie est devenue une personne divine ou quoi. Non, elle participe tellement à cette vie de Jésus en elle qu'elle est vraiment divinisée, en fait. Ça va jusqu'à maintenant ? C'est dense, hein ? Ben, merci de suivre. Alors, je vais passer à la deuxième partie, où il explique maintenant d'une manière un peu plus, je dirais, plus simple, enfin, il me semble, l'union parfaite entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Alors, il faut préciser quelque chose concernant l'expression même, qu'il utilise parfois, cœur de Jésus et de Marie. Il aimait à dire, en parlant de ces deux cœurs, le saint cœur de Jésus et de Marie. Au lieu de dire, comme le fera un peu plus tard l'ange à Fatima, hein, quand il parlait au pasteur en 1916, les saints cœurs de Jésus et de Marie. Nous le dirons ça plutôt aujourd'hui aussi. Hein, les saints cœurs. Pas cinq cœurs, hein, comme quelqu'un qui disait qu'aller à l'école des cinq cœurs. Non, ce n'est pas 17 heures. Saint cœur pluriel. Mais Jean-Eudes employait en fait les deux expressions. Parfois, il lui arrivait de les réunir dans la même phrase, le même texte. Mais son langage est clair quand il explique ceci. Il n'est pas juste de séparer le divin cœur de Jésus et le cœur virginal de Marie. Deux cœurs qui sont unis ensemble. Ces deux cœurs de Jésus et de Marie. Ou encore, comme ces deux cœurs d'un tel fils et d'une telle mère s'entendaient bien entre eux. Après cela, quelle obligation avons-nous d'honorer, d'aimer et de louer ces deux cœurs très aimables de Jésus et de Marie ? Et il va encore l'expliquer autrement. Encore que le cœur de Jésus soit différent de celui de Marie et qu'il le surpasse infiniment en excellence et sainteté, si est-ce que Dieu a uni si étroitement ces deux cœurs qu'on peut dire avec vérité qu'ils ne sont qu'un cœur, parce qu'ils ont toujours été animés d'un même esprit et rempli des mêmes sentiments et affections. Alors maintenant, il va expliquer en quoi consiste cette union des sacrés cœurs ou des saints cœurs de Jésus et de Marie. Alors, il va reprendre le langage déjà utilisé dans son premier ouvrage, Le royaume de Jésus dans les âmes, et il va reprendre donc ces différents concepts dont je vous ai parlé ce matin, et là, il va les formuler autrement. Il va parler des trois liens de dépendance, de conformité et d'amour qui rattachent donc le cœur des fidèles à celui de Jésus, mais qui s'appliquent d'une manière excellente justement à la Vierge Marie. Premièrement, la dépendance qui existe entre le cœur de Jésus et celui de Marie varie bien sûr suivant le point de vue auquel on se place. Du point de vue naturel d'abord, Jésus a voulu dépendre de la très sainte Vierge. C'est dans son sein qu'il s'est incarné et c'est d'elle qu'il a reçu le corps dont il s'est revêtu. D'où il suit, comme le dit saint Augustin, que la chair de Jésus est la chair de Marie. Le cœur de Jésus est aussi en un sens le cœur de Marie, puisque c'est du cœur de Marie qu'il a reçu d'une façon plus ou moins immédiate les éléments qui le constituent et la vie qui l'anime. Toutefois, ce n'est pas sur cette dépendance que saint Jean-Eudes insiste le plus, mais sur celle qui, dans l'ordre surnaturel, rattache ces deux cœurs. Évidemment, du point de vue surnaturel, les rôles se retrouvent renversés. Au lieu de communiquer la vie au cœur de Jésus, c'est Marie qui la reçoit de lui, bien sûr, puisqu'elle fait partie, comme nous tous, hein, de ce grand corps mystique dont Jésus est le chef. Et c'est ici que cela commence à nous toucher profondément, parce que parfois, nous, on se dit, la Vierge Marie est tellement loin de nous, tellement parfaite, tellement grande, enfin, que c'est quelqu'un d'inaccessible. Or, Saint Jude rappelle chaque fois qu'elle fait partie de l'Église. Oui, elle est la mère de l'Église, mais avant cela, c'est la première chrétienne, si on peut dire, vous voyez. Donc, elle est proche de nous, c'est une sœur aînée, si on veut dire ça. Puis c'est important de prendre conscience de cela, pour ne pas la considérer comme une déesse, quoi, vous voyez. Je cite le Père Eudes encore. Le cœur de Jésus est le principe de la vie de la Mère de Dieu, car pendant que cette Mère admirable portait son Fils bien-aimé dans ses bénites entrailles, comme son cœur virginal était le principe de la vie corporelle et naturelle de son divin enfant, le cœur de cet enfant adorable était aussi le principe de la vie spirituelle et surnaturelle de sa très divine Mère. Et conséquemment, ce cœur déifié du Fils unique de Marie était le principe de toutes les pieuses pensées et affections de sa bienheureuse mère, de toutes les saintes paroles qu'elle disait, de toutes les bonnes actions qu'elle faisait, de toutes les vertus qu'elle pratiquait, et de toutes les peines et douleurs qu'elle souffrait saintement pour coopérer avec son Fils à l'œuvre de notre salut. Dieu étant présent en elle, eh bien, elle était animée de l'extérieur, donc elle avait une dépendance de ce Fils unique de Dieu qui vivait en elle. Et ce que Jean Eudes dit de l'influence du cœur de Jésus sur la vie surnaturelle de Marie, durant les 9 mois qu'elle le porta dans son sein, il faut évidemment l'étendre à toute la vie de la Sainte Vierge. Dans l'ordre surnaturel, en effet, Marie n'est rien, n'a rien et ne peut rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus. Et c'est Jésus qui est tout, qui peut tout et qui fait tout en elle. C'est, je pense, le centre de sa démonstration ici, vous voyez, de ses explications. Et il va revenir souvent à ce principe. Chaque fois quand il veut expliquer l'union entre le cœur de Jésus avec le cœur de Marie. Concernant cette dépendance, j'aurais voulu vous expliquer beaucoup plus de choses trouvées chez lui. Il prend des images, beaucoup d'images, pour montrer cette ressemblance. Je vais m'arrêter sur une seule. Il va comparer le cœur de Marie à la harpe de David. Il dit ceci: la harpe du saint roi David représente excellemment le cœur de Marie, lequel est la vraie harpe du véritable David. Véritable harpe du véritable David, qui est le véritable David, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui-même qui l'a faite de sa propre main. C'est lui seul qui la possède et qui l'a toujours possédée. Jamais elle n'a été en d'autres mains qu'en la sienne. Jamais elle n'a été touchée d'autres doigts que des siens. Parce que ce cœur virginal n'a jamais eu aucun sentiment, ni affection, ni mouvement que ceux qui lui ont été donnés par le Saint-Esprit. Les cordes de cette harpe, ce sont toutes les vertus du cœur de Marie, spécialement sa foi, son espérance et son amour vers Dieu. Vous voyez, les vertus théologales que nous avons aussi reçues. Sa charité vers le prochain, sa religion, son humilité, sa pureté, son obéissance, sa patience, sa haine contre le péché, son affection pour la croix et sa miséricorde. 12 cordes sur lesquelles le divin esprit a fait résonner aux oreilles du Père éternel une si merveilleuse harmonie. Et des cantiques d'amour si mélodieux qu'en étant tout charmé, il a oublié toutes les colères qu'il avait contre les pécheurs, a quitté les foudres dont il était armé pour les perdre, et a donné son propre Fils pour les sauver. Vous voyez la vision de salut qu'il a. Il explique un peu plus cette image, mais le Père Amorio, qui est venu nous enseigner à un moment donné, il disait que... Il a attiré l'attention sur une chose intéressante, au-delà de ces explications de Jean Eudes. Il disait qu'en fait, en général, les instruments à cordes, et les spécialistes en musique, qui parfois sont fatigués, peuvent quand même entendre de la belle musique, bien, peuvent confirmer cela. Quand il y a deux instruments de guitare, deux harpes, parfaitement accordées l'une à l'autre, Si vous jouez sur l'une, l'autre va vibrer aussi, va jouer aussi, sans la toucher. Et c'est un peu cela, aussi, le cœur de Marie par rapport au cœur de Jésus, vous voyez. Les sentiments qui se trouvaient dans le cœur de Jésus vibraient dans le cœur de Marie. On peut garder cette image dans notre cœur, mais l'envers, c'est aussi vrai, bien sûr. Ce que la mère sent, eh bien, le fils l'expérimente aussi. Celles qui sont mères parmi vous peuvent confirmer ou infirmer cela. Je me suis toujours étonné comment une maman sait que son enfant qui n'est pas là est malade, a un problème, quoi. Puis tu as un coup de fil tout d'un coup en disant « ça va ?»« Ben non. » »« Mais comment tu savais ?»« Ben j'ai senti. » Bon, je m'arrête ici parce que certains vont dire que je dépasse le cadre de mon enseignement. Entre le cœur de Marie et de Jésus, il y a aussi un lien de conformité. C'est le deuxième point. L'abondante communication que Jésus fit à Marie, du divin esprit qui l'animait, jointe à la docilité qu'elle apporta de son côté à se laisser conduire par lui, a eu pour résultat d'établir entre le cœur du Fils et celui de la Mère une admirable conformité. Les pensées, les affections, les vertus, les joies, les douleurs du cœur de Jésus devinrent celles du cœur de Marie, à tel point qu'entre ces deux cœurs, il n'y eut jamais, comme le dit Pérode, qu'une seule et même vie. Je le cite, « Le cœur n'était-il pas principe de la vie ? Et qu'est-ce que le Fils de Dieu est dans sa divine mère, où il a toujours été et sera éternellement, sinon l'esprit de son esprit, l'âme de son âme, le cœur de son cœur, est le seul principe de tous les mouvements, usages et fonctions de sa très sainte vie. » N'entendez-vous pas Saint Paul qui nous assure que ce n'est point lui qui vit, mais que c'est Jésus-Christ qui est vivant en lui et qu'il est la vie de tous les vrais chrétiens. Donc Galates 2:20 et aussi dans Colossiens 3:4. Qui peut douter qu'il ne soit vivant dans sa très précieuse mère et qu'il ne soit la vie de sa vie et le cœur de son cœur. Saint Jean-Eudes aime beaucoup citer des mystiques aussi. Par exemple, Sainte Brigitte, qu'il a beaucoup lu, étudié, médité. Et il donne à un moment donné le témoignage de Sainte Brigitte. Donc là, c'est Sainte Brigitte qui parle. Mon fils, lui dit la Vierge Marie, m'était véritablement comme mon cœur. La Vierge Marie qui parle à Sainte Brigitte. C'est pourquoi lorsqu'il sortit de mes entrailles et naissant au monde, il me sembla que la moitié de mon cœur sortit de moi. Et quand il souffrait, j'en ressentais la douleur, comme si mon cœur eût porté les mêmes peines et enduré les mêmes tourments qu'il endurait. J'ose donc dire que sa douleur était ma douleur, d'autant que son cœur était mon cœur. Car, comme Adam et Ève ont vendu le monde par une pomme, mon cher fils aussi a voulu que j'aie coopéré avec lui pour le racheter par un même cœur. Sainte Brigitte, hein. De la même façon, toutes les louanges que l'on donne à mon fils sont mes louanges. Et quiconque le déshonore, me déshonore. Parce que je l'ai toujours aimé si ardemment, et il m'a toujours aimé si parfaitement, que lui et moi n'avons jamais été que comme un même cœur. Eh bien, c'est tout cela qui a nourri cette spiritualité de Jean-Eudes et qui nous transmet jusqu'à aujourd'hui dans l'Église. Troisième lien, c'est celui de l'amour. L'amour, en effet, tend à l'union, comme l'expliquent souvent les philosophes. Et les sacrés cœurs de Jésus et de Marie ont toujours été embrasés l'un pour l'autre d'un amour dont l'intensité dépasse la portée de notre intelligence. Alors, un premier aspect, c'est l'amour de Jésus pour Marie. Et Saint Jean insiste sur le fait que le cœur de Jésus est une fournaise d'amour à l'égard de sa mère. Je le cite, « Les grâces inexplicables et inconcevables dont notre Sauveur a comblé sa bienheureuse mère font voir manifestement, dit-il, qu'il a un amour pour elle qui est sans mesure et sans borne. Qu'après son divin Père, elle est le premier et le plus digne objet de son amour. et qu'il l'aime plus, elle seule, incomparablement que tous ses anges, tous ses saints et toutes ses créatures ensemble. L'amour de Jésus pour sa mère. Deuxième point, inversement, l'amour de Marie pour Jésus. Jean-Eudes nous dit que l'amour de Marie de notre Rédempteur était infini en quelque façon. Car le Père éternel l'ayant choisi pour l'associer avec lui dans sa divine paternité et pour la rendre mère de même fils dont il est le Père, il lui a communiqué aussi l'amour inconcevable qu'il a pour ce même fils et un amour conforme à la dignité infinie de sa divine maternité. Oh, quel doit être l'amour d'une telle mère au regard d'un tel fils! C'est une mère qui tient lieu de père et de mère au regard de son fils et qui, par conséquent, porte dans son cœur un amour de père et de mère au regard de lui. Parce que dans le cœur de Marie se trouve tout l'amour du père, vous voyez? Il ne faut pas appliquer ça aux courants différents qui vont aussi dans le monde d'aujourd'hui. L'amour du père était dans le cœur de Marie et son amour maternel, voilà, s'est manifesté envers Jésus d'une manière, ben oui, infinie, quoi. C'est une mère qui aime tant son fils que dans l'amour de tous les pères et de toutes les mères qui ont été, sont et seront, se trouveraient ramassées dans le cœur d'une seule mère, à peine serait-il une étincelle de la très ardente fournaise d'amour qui brûle dans le cœur de la mère du Sauveur pour son très cher fils. C'est un fils unique et très uniquement aimé de sa mère. C'est un fils infiniment aimable, infiniment aimant et en quelque manière infiniment aimé. Et troisième petit point, l'un des principaux effets de cet amour mutuel, réciproque, est justement, précisément, l'union du cœur de Marie à celui de Jésus. Cet amour très ardent de cœur de Marie, dit le Père Eudes, l'unit avec son fils Jésus d'une union si forte et si merveilleuse que la mort qui a rompu l'union très étroite de l'âme sainte et du corps adorable de Jésus, la séparation de l'âme et du corps de Jésus, n'a pu avoir aucune atteinte sous l'union inviolable qui est entre ce divin Sauveur et sa très chère mère. Quand la cruelle lance du soldat inhumain perça le côté et le cœur de Jésus pendant en la croix, donc suspendu sur la croix, elle ne causa aucune douleur à son âme, car elle n'était plus dans son cœur ni dans son corps, la mort l'en ayant séparée. Mais elle transperça l'âme de sa bienheureuse mère et la navra d'une plaie très sanglante et très douloureuse, car son amour la tenait unie au corps et au cœur de Jésus. Oh, qu'il est bien vrai que l'amour est plus fort que la mort, puisque la mort peut bien séparer l'âme de Jésus d'avec son corps, et que l'amour unit si intimement le cœur et l'âme de Marie avec Jésus, que la plus cruelle de toutes les morts ne peut les en séparer. Nous faisons peut-être l'expérience d'un deuil, du départ de quelqu'un, et on sent ça dans notre cœur. L'amour va au-delà de la mort. Et c'est une expérience humaine que toute personne vit sans être croyant. Pourquoi on apporte des fleurs aux obsèques? Parce qu'on a aimé celui qui est parti ou celle. L'expérience humaine. Eh bien, Saint Jean dit, ben, d'autant plus, justement, au-delà de la mort de Jésus sur la croix, cet amour de la cœur de Marie envers son fils, eh bien, a continué et continue sans cesse. C'est à cause de cette union que personne n'est jamais peut séparer, peut détruire. Je vais m'arrêter ici sur cette deuxième partie et je finis par la troisième qui est un peu plus brève. Quel est le culte que nous pouvons donner et nous devons donner au cœur de Marie et de Jésus parce qu'ils sont unis? Alors, d'abord, un petit rappel. Jean-Eudes avait donc obtenu la célébration d'une fête du cœur de Marie en 1648 et c'est simplement en 1672, donc beaucoup plus tard, qu'il a demandé aussi à l'Église la reconnaissance d'une célébration de la fête du Sacré-Cœur pour sa congrégation. Et dans la lettre qu'il a envoyée à ses confrères, il disait ceci: « Quoique jusqu'ici nous n'ayons pas célébré une fête propre et particulière du cœur adorable de Jésus, nous n'avons pourtant jamais eu intention de séparer deux choses que Dieu a unies si étroitement ensemble, comme sont le cœur très auguste du Fils de Dieu et celui de sa très bénite mère. Au contraire, notre dessein, écoutez ceci, a toujours été, dès le commencement de notre congrégation, il était fondé en 1643, de regarder et honorer ces deux cœurs comme un même cœur, en unité d'esprit, de sentiment, de volonté et d'affection. Et donc, il incite ses frères à accueillir cette fête du cœur de Jésus, non pas comme quelque chose qui n'existait pas avant, mais comme une sorte de plénitude, en fait. Le cœur de Marie, déjà, les avait déjà préparés à mieux adorer le cœur de Jésus. Alors, du coup, pour nous, et pour, voilà, pour chaque chrétien, quel est le culte que nous devons rendre au sacré cœur de Jésus et de Marie? Lui, il prend le temps et c'est assez complexe, mais il nous incite à quatre attitudes fondamentales. Premièrement, l'amour des sacrés cœurs. Deuxièmement, la conformité que nous devons avoir avec eux. Troisièmement, la dépendance où nous devons vivre à leur égard. Et quatrièmement, l'usage que nous en pouvons faire. Vous voyez, il prend toujours le même schéma maintenant, nous concernant nous par rapport à ces deux cœurs de Jésus et de Marie. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je me permets simplement de conclure par une citation justement de Saint Jean Eudes, ou une ou deux, voilà, qui peuvent nous aider à comprendre un peu la façon dont nous, en fait, pouvons et devons honorer la Vierge Marie, parce que justement elle est tellement unie à son Fils qu'elle mérite toute notre louange. Je disais tout à l'heure déjà, en citant Jean Eudes, « D'elle-même et par elle-même, elle n'est rien, mais son Fils Jésus est tout en elle. » Donc nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si étroitement liés ensemble que qui voit Jésus, voit Marie. Qui aime Jésus, aime Marie. Celui-là n'est pas vraiment chrétien qui n'a pas de dévotion à la mère de Jésus-Christ et de tous les chrétiens. Là, il est radical. Afin de l'honorer comme Dieu le demande de nous et comme elle le désire, nous avons trois choses à faire. Premièrement, il nous faut regarder et adorer son Fils en elle. Ni regarder et adorer que lui. N apostrophe Y. Car c'est ainsi qu'elle veut être honorée, parce que d'elle-même et par elle-même, elle n'est rien. Mais son Fils Jésus est tout en elle. Il est son être, sa vie, sa sainteté, sa gloire, sa puissance et sa grandeur. Il faut le remercier pour la gloire qui s'est rendue à soi-même en elle et par elle. Nous offrir à lui et le prier qu'il nous donne à elle et qu'il fasse en sorte que toute notre vie et nos actions soient consacrées à l'honneur de sa vie et de ses actions, qui nous fasse participants de l'amour qu'elle lui a porté de ses autres vertus et qui se serve de nous pour l'honorer, ou plutôt pour s'honorer soi-même en elle, en la manière qui lui plaira. Deuxièmement, nous devons la reconnaître et honorer comme la mère de notre Dieu, et ensuite comme notre mère et souveraine. La remercier pour tout l'amour, la gloire et les services qu'elle a rendus à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui référer notre être et notre vie après Dieu, nous mettre en sa dépendance et la prier de prendre la conduite de tous ceux qui nous regardent. Prendre la conduite de tous ceux qui nous regardent. Ça nous rappelle, déjà par anticipation, ce que dira Louis Grignon de Montfort un peu plus tard. Nous donner à elle en qualité de serviteur, la suppliant qu'elle dispose de nous comme il lui plaira pour la gloire de son Fils. C'est ça qu'on appelle la consécration à Marie, en fait. Voilà. Qu'elle daigne se servir de toutes nos actions pour honorer celles de son Fils et qu'elle nous associe à tout l'amour et à toutes les louanges qu'elle lui a jamais rendues, qu'elle lui rendra à toute éternité. Et troisièmement, nous pouvons et devons honorer cette très honorable Vierge par pensée et considération d'esprit, considérant la sainteté de sa vie et la perfection de ses vertus, par parole prenant contentement à parler, donc en se réjouissant à parler, à entendre parler de ses excellences, par action, lui offrant nos actions en l'honneur et union des siennes, par imitation, tâchant de l'imiter en ses vertus, spécialement en son humilité, en sa charité, en son pur amour, en son dégagement de toutes choses et en sa pureté toute divine. La pensée de laquelle doit mettre en nous un puissant désir de fuir, de craindre, d'avoir en horreur plus que la mort, les moindres choses contraires à la pureté, soit en pensée, ou en parole ou en action. Pureté ici, pureté, il faut la prendre dans le sens général du mot, d'une totale disponibilité à Dieu. Enfin, nous pouvons honorer la Vierge par quelques prières ou exercices de dévotion, comme le chapelet, dont l'usage doit être commun à tous les chrétiens. Moyen très excellent pour honorer le premier mystère de la vie de Jésus et la plus grande merveille qui ait jamais été opérée par Dieu au ciel et sur la terre, le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu dans la très sainte Vierge Marie. On ne peut dire trop de fois l'Ave Maria, parce qu'on ne peut trop célébrer la mémoire de ce mystère. Et c'est cela le chapelet, en fait. On célèbre sans cesse l'incarnation de Jésus, de Fils de Dieu. Et vraiment, pour terminer, cette doctrine de Saint Jean-Eudes est passée, bien sûr, dans l'enseignement de l'Église. Je vous ai cité ce matin même un passage du catéchisme, vient directement de Saint Jean-Eudes. En 1956, quand le pape Pie XII a écrit la lettre encyclique Aurietis Aquas concernant justement l'importance du culte du cœur de Jésus, donc un siècle après que la fête a été instaurée pour l'Église entière, du Sacré-Cœur, il disait ceci au numéro 73. Un message, pour nous tous sûrement. Pour que des fruits plus abondants découlent dans la famille chrétienne et dans tout le genre humain du culte du cœur très sacré de Jésus, les fidèles doivent veiller à l'associer étroitement au culte envers le cœur immaculé de Marie. Puisque, de par la volonté de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie a été indissolublement unie au Christ dans l'œuvre de la rédemption humaine. Afin que notre salut vienne de l'amour de Jésus-Christ et de ses souffrances, intimement unie à l'amour et aux douleurs de sa mère, il convient parfaitement que le peuple chrétien, qui a reçu la vie divine du Christ par Marie, après avoir rendu le culte qui lui est dû au cœur très sacré de Jésus, écoutez ceci, rende aussi au cœur très aimant de sa céleste mère de semblables hommages de piété, d'amour, de gratitude et de réparation. C'est en parfait accord avec ce dessein très sage et très suave de la providence divine que nous avons, par un acte mémorable, solennellement consacré la Sainte Église et le monde entier au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Il avait fait à peu près 13-14 ans juste avant, en 1942, consacré le monde entier au cœur immaculé de Marie. Eh bien, nous pouvons aussi reprendre cet acte aussi pour nous-mêmes. Laissons-nous guider, par ce grand saint qui est Jean-Eudes, qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, mais j'espère que ça peut nous donner le désir d'approfondir son enseignement. On va terminer aussi, comme il nous l'invite, en proclamant ce mystère de l'incarnation, en nous tournant vers la Vierge Marie, qu'elle nous apprenne à rester toujours unie et de plus en plus unie au cœur de Jésus son Fils. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.